7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque mois, la parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain avec les conseils du coach Didier Akwété. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez Afrique Search, société de conseil en ressources humaines.
Jusque-là, oui.
Et le mois dernier, nous étions à Saint-Louis avec vous, à Saint-Louis du Sénégal, pour encourager de jeunes entrepreneurs qui démarrent, qui galèrent. C'est toujours un peu les mêmes problèmes, recruter, cibler ses services, ses produits, ses circuits de distribution, trouver des partenaires, parler à son banquier, s'exporter. Ça s'appelle la difficile vie des JPAG.
Et tout ce qu'on trouve dans un business plan, en fait.
Voilà, jeune patron de l'Afrique qui gagne le fameux business plan, c'est souvent ce qui vous met en rogne quand il n'est pas suffisamment précis. Alors aujourd'hui, on est dans le studio de RFI, et bien sûr, les voisins qui nous écoutent, et les voisines surtout, les entrepreneuses. Vous pouvez nous appeler pour nous parler de vos difficultés, ne serait-ce que difficultés pour commencer, pour lancer le projet. Didier Akwété vous écoute et vous dit vraiment ce qu'il pense de votre projet, quels que soient les secteurs, dans l'agro-business, dans les nouvelles technologies, l'énergie, peu importe. Vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et puis tous vos messages également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Didier Akwété, avant qu'on donne la parole à un premier porteur de projet, vous étiez il y a quelques jours, tout début du mois, à Douala au Cameroun, pour la première fois Afrique Talent, organiser des rencontres entre le marché de l'emploi et des cadres à Douala.
Oui, ça faisait des années qu'Afrique Talent devait se faire au Cameroun et nous l'avons enfin fait pour la première année. Et ça a été un bon succès populaire avec une belle affluence.
On vous attendait depuis pas mal de temps, c'est vrai.
Je l'avoue. Et ça nous a encouragés à inscrire Douala sur la liste des Afrique Talents à venir.
Et alors, il y a des spécificités?
Alors, ce qui était intéressant, c'est la variété des secteurs. On en parle souvent dans l'émission. On avait des banques, des entreprises dans l'énergie, dans le BTP. Bref, l'hétérogénéité des entreprises montrait clairement cette dynamique des économies africaines et des profils. Et on parle souvent des profils techniques. Et là, on avait une entreprise dans l'énergie, par exemple, qui recherchait plus d'une centaine de postes ou dans le BTP également. Et donc, vraiment...
Donc, on a beaucoup fait la queue pour passer des entretiens ou un peu moins qu'ailleurs?
On a bien géré les flux, puisque certains avaient rendez-vous le matin, d'autres l'après-midi. Donc, ça s'est bien passé globalement, mieux que certains pays.
Et du côté des cadres bien formés, avec déjà de bonnes expériences?
Alors, le Cameroun, c'est quand même un des pays où on trouve le plus de compétences. Des pays comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un marché où il y a un excellent vivier.
Mais avec de bonnes formations sur place.
Et quelques bonnes formations, techniques notamment, ou managériales. Mais malheureusement, le marché n'offre pas ses débouchés. Et je pense que l'arrivée d'Afrique Talent va permettre de créer encore une nouvelle dynamique. Et merci encore aux entreprises qui nous suivent depuis des années, qui sont venues également au Cameroun et à nos candidats.
C'est ça. Donc Afrique Talent à Douala, ça sera un rendez-vous annuel maintenant.
Annuel, comme tous les autres pays.
Et ben voilà, il faut se le dire et il faut le noter dans ses tablettes.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Avec le coach Didier Akwété.
Didier Akwété, on démarre avec un premier projet qui nous arrive d'Abidjan. C'est vrai que beaucoup de projets arrivent de Côte d'Ivoire désormais depuis quelques années. Kevin, bonjour. Vous êtes à Abidjan, vous avez 24 ans. Vous avez un master en management et commerce à l'Université de Lyon. Vous avez travaillé notamment pour la Fondation Orange et vous êtes très engagé sur les questions qui sont liées à la santé, à l'éducation, à l'emploi des jeunes. Et vous êtes en train de monter une plateforme qui va s'appeler Mon Artisan. Première plateforme locale de mise en relation d'artisans et de clients que vous avez fondée il y a tout juste un an maintenant, Kevin.
Ah, bien sûr, oui.
En 2016. Alors, vous êtes deux jeunes entrepreneurs.
Oui, bien sûr.
Pourquoi Mon Artisan?
Mon Artisan, parce que là, on a vécu dans un environnement fortement imprégné dans l'économie informelle. Il faut dire que nos parents étaient des artisans, moi et mon collègue. Et donc, on a eu comme ça l'idée de pouvoir leur créer une solution qui allait leur donner plus de visibilité et également augmenter leurs revenus.
Ouais.
Donc, Mon Artisan implique l'idée de proximité. Voilà. Parce que c'est une application qui permet de localiser l'artisan le plus proche de soi et le plus compétent également.
Alors, les métiers visés, principalement, c'est le secteur du bâtiment, de l'automobile?
Oui, bien sûr.
Oui.
Et il faut dire que l'artisanat, c'est un large secteur.
Oui.
Et donc, nous avons voulu rester focus sur les métiers où il y avait le plus de demande. Et donc, ces métiers-là sont orientés vers le domaine du bâtiment, tels que la plomberie, l'électricité, la maçonnerie,
oui.
Également vers celui de l'auto et de l'électronique.
Oui, ah, trouver un bon garagiste. Ça, c'est vraiment des problèmes qui parlent à tout le monde. Hein. Je sens que Didier est déjà très concerné par ce que vous venez de décrire. Et vous êtes le fils d'un artisan vous-même, Kevin. Que faisait votre papa?
Et mon père, c'est un photographe, mais qui fait la photographie de manuelle. Hein.
Ah oui.
On va dire la photographie de manuelle.
D'accord. Et votre associé, entrepreneur?
Eh bien, mon associé, lui, son père est un peintre. En bâtiment.
Peintre en bâtiment. Alors comment ça va marcher très concrètement? Didier Akwété recherche un plombier. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Il va sur votre plateforme?
Bien sûr, il va sur notre plateforme, qui est spécifique pour le moment. Il va sur www.monartisan.côte-d'Ivoire. Il fait une recherche ciblée pour trouver l'artisan le plus proche de lui. Il indique son lieu d'habitation et il a accès à un annuaire d'artisan. Il peut choisir l'artisan en s'appuyant sur les avis et commentaires des autres membres. Et ensuite, il prend rendez-vous en ligne avec l'artisan pour une intervention ou un devis. Et le prestataire vient réaliser les travaux commandés à la date convenue. Et ensuite, M. Akwété peut l'évaluer et le recommander à d'autres utilisateurs.
Mmh. Pour entrer des artisans sur votre plateforme, j'imagine qu'il y a des critères d'entrée. Vous les rencontrez? Comment vous les sélectionnez, ces artisans? Il suffit de payer pour être sur votre site?
Non, pas du tout. L'accès est gratuit. Il faut dire que nous voulions référencer les meilleurs artisans. Et donc, nous avons un process qui est très sélectif. Et d'abord, pour être référencé sur notre plateforme, il y a un test d'entrée. Hein. Ensuite, après le test d'entrée, nous avons un entretien de motivation avec des experts de la Chambre des métiers. Et nous avons également une vérification des 3 références clients.
Mmh.
Et après cela, nous signons un contrat de partenariat avec l'artisan. Et en fait, l'artisan est référencé sur notre plateforme.
Et vous rémunérez en fait en prenant une commission, c'est ça, 10%
oui,
sur la facture finale?
Oui, bien sûr. Nous prenons une commission de 10% sur la main-d'œuvre de l'artisan.
Donc Didier Akwété va payer son plombier 10% plus cher, forcément. Parce que le plombier, il va répercuter, non?
Tout dépend du prix qu'ils ont négocié avec, avec les artisans. Peut-être qu'il doit nous dire.
Oui, bien sûr. Nous négocions des forfaits avec les artisans. Et donc, les clients ne sont pas vraiment, le surplus des 10%.
C'est le plombier qui accepte de baisser un peu son prix?
Bien sûr. Puisqu'il aura avec nous plus de marché, en fait.
Vous êtes en phase d'amorçage, hein, c'est bien cela en ce moment?
Bien sûr. Nous sommes en phase d'amorçage. Et nous sommes présents dans 6 communes d'Abidjan. Voilà, Cocody, Plateau... pour ceux qui connaissent un peu Abidjan, voilà. Et donc nous avons une croissance de notre chiffre d'affaires de 30% en moyenne par mois. Mais nous avons quelques soucis. Nous gaspillons énormément d'argent aujourd'hui pour offrir une très bonne qualité de service à nos clients, pour trouver les meilleurs artisans. Et on veut en quelque sorte créer un centre de formation pour pouvoir mieux former nos artisans. Mais comme nous n'avons pas encore de trésorerie adéquate, on voudrait solliciter un prêt bancaire, mais c'est également difficile en Côte d'Ivoire de pouvoir le faire. On nous demande d'avoir 3 ans d'activité minimum. Et donc, on se demande, en tant que jeune start-up, comment séduire les banques pour pouvoir créer notre centre de formation des gens. Également, on prévoit de salarier 20 à 30% de nos meilleurs artisans pour leur offrir une couverture sociale parce que nous avons une vision qui est très sociale. Et donc, nous plaçons l'artisan au centre de notre modèle. Donc, on aimerait offrir une couverture sociale à nos meilleurs artisans en salariant 20 à 30% de ces artisans.
Pour le moment, vous avez une centaine d'artisans qui sont référencés, mais évidemment, vous avez envie de les fidéliser, je pense, à terme.
Bien sûr.
Alors, sur ces deux premières questions, déjà, est-ce que c'est une bonne chose de créer un centre de formation, ne serait-ce aussi pour fidéliser les compétences? On voit bien là, quand même, que le problème de Kevin, Didier, hein, c'est d'arriver à amasser suffisamment de très très bonnes compétences pour faire la différence sur le marché.
Bien sûr.
C'est d'abord un bon projet, parce que c'est vrai, tout le monde a du mal à trouver un bon artisan, un bon plombier, électricien, qui ne vous truande pas, qui fait bien le boulot. Souvent, on est désemparé. Donc, le principe de la plateforme est une excellente idée. Avec en plus des notes des clients qui évaluent les prestations. Alors, sur la première question, de deux choses. Une, soit vous êtes un centre de formation et donc vous construisez un modèle de centre de formation, ou alors vous êtes simplement un intermédiaire. C'est-à-dire, vous mettez en relation des clients et des prestataires de services. Et ça, la banque ne comprendra pas si vous êtes un intermédiaire et vous avez créé une plateforme et que vous voyez vous lancer dans un centre de formation. Mmh. La banque ne comprendra pas. En revanche, vu que vous répondez à un besoin social également, qui est quand même un besoin aussi économique, la Chambre des métiers peut en revanche subventionner ou sponsoriser certains nombres de formations, y compris les bailleurs. Vous savez, c'est extrêmement à la mode actuellement, les formations professionnelles, formations aux métiers, et les bailleurs de fonds financent la mise en place de centres de formation. Donc,
et si vous venez... Il faut bien préciser qu'en Côte d'Ivoire, c'est 40% de la population active travaille dans l'artisanat. Hein. Alors, pas forcément dans l'automobile ou le bâtiment, mais enfin, c'est quand même un gros secteur, et c'est 24% du PIB ivoirien.
Et puis surtout que 80% des personnes qui sont formées à l'artisanat le sont dans l'informel.
Exactement.
Donc ça veut dire apprennent sur le tas, en fait, et donc n'ont pas forcément de compétences techniques avérées. Mais pour revenir à la question de notre ami, si vous voulez faire un centre de formation, il faut que ce soit un vrai modèle de formation à des métiers liés à l'artisanat, où vous construisez un business plan pour faire de la formation. Et là, vous trouverez effectivement des bailleurs de fonds qui vont vous appuyer et une banque qui peut suivre parce que c'est de la formation professionnel et continue.
Est-ce qu'il faut lancer ça maintenant en parallèle de l'entreprise, de la start-up elle-même, non, de la plateforme?
Ça me paraît un peu tôt. C'est-à-dire que pour l'instant, consolidez d'abord ce que vous êtes en train de mettre en place, qui est déjà un gros projet en lui tout seul, et vous le disiez dans le business plan, identifier les bons artisans, les tester, les mettre sur la plateforme, c'est déjà le cœur aujourd'hui
de votre business. Et l'idée de salarier à terme 20 à 30% des artisans pour leur proposer une couverture maladie, c'est une bonne idée ou pas ça?
Dans l'absolu, pourquoi pas? C'est-à-dire que lorsqu'il aura le centre de formation et qu'il formera des artisans, il peut créer un circuit entre guillemets continu où il forme, il salarie parce qu'il est devenu lui-même un acteur. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il oublie, vous n'êtes pas un acteur du secteur, vous n'êtes qu'un intermédiaire. Vous ne maîtrisez pas tous les métiers. Donc, si vous commencez à salarier des personnes sur une start-up, sur une activité qui existe, alors là, je ne suis pas sûr que votre start-up va survivre longtemps. Ouais. En revanche, si vous arrivez à créer une clientèle, entre guillemets, d'artisans que vous avez fidélisés, à qui vous proposez un accès à un marché, à qui vous pouvez proposer des formations, parce que ce n'est pas à vous de créer les centres de formation pour l'instant, mais à qui vous pouvez proposer des formations professionnalisantes, voire même diplômantes pour certains, avec la Chambre des métiers, avec des entreprises qui sont dans le secteur, ça, vous pourrez, à mon avis, trouver déjà une première voie pour un développement économique un peu plus harmonieux, dans un premier temps. Et seulement après, si vous voulez les salariés, une fois que vous avez des clients fidélisés, vous avez des artisans qui sont reconnus, qui travaillent bien, vous les mettez dans un cycle de formation, même avec des possibilités de financement, là, ils commencent à trouver l'intérêt. Et je vais finir par un exemple. Au Rwanda, par exemple, ce que j'ai vu, les artisans, que ce soit des peintres, des tauliers, qui sont dans l'alu, il y a des centres de formation professionnels où l'État leur permet de venir se faire former et même d'accéder aux instruments. Par exemple, le garagiste qui n'a pas de scanner, il peut aller dans ce centre et faire passer une voiture au scanner sans que le scanner lui appartienne. Donc, dans votre modèle, quand vous arriverez en association avec les télébailleurs à créer des centres de formation et d'expertise avec...
Et de l'accès à du matériel qui est mutualisé.
Exactement, d'avoir accès à du matériel, là, vous commencerez à fidéliser réellement vos artisans. Parce que le problème de l'artisan, c'est qu'il n'arrive pas à faire l'investissement sur du matériel...
D'autant plus aujourd'hui dans l'automobile, où c'est de plus en plus coûteux.
Bien sûr.
Kevin a une dernière question que je voudrais que vous puissiez poser à Didier Akwété. Kevin?
Là, nous sommes présents à Biton dans 6 communes, qui sont des communes où vivent essentiellement la classe moyenne. Et donc, nous voulons évoluer vers certaines communes qui sont un peu popularisées, comme le Pougon à Bobo, pour ceux qui connaissent Abidjan. Et donc, on se demande quelle stratégie adopter pour aborder cette classe plus pauvre, on va dire.
Alors, est-ce que dans les quartiers populaires, on va avoir l'idée d'aller sur Internet pour trouver un mécanicien, de rentrer dans le même système, ou est-ce qu'il faut complètement changer le modèle économique? Est-ce que c'est transposable ou pas?
Non, ça peut être transposable, mais attention, vous avez déjà commencé à adresser une cible qui est la classe moyenne. Et d'ailleurs, je lisais il n'y a pas longtemps que finalement 16% de la classe moyenne seulement se trouve à Abidjan. Donc, votre enjeu, est-ce que le modèle est plus adapté pour la classe moyenne qui peut donc avoir accès aux technologies, payer un certain prix aussi pour avoir une prestation de qualité? Ce modèle, déjà, je pense qu'il faut l'éprouver, le tester complètement. Sur des classes plus populaires, entre guillemets, où la proximité, à mon avis, hein, est vraiment l'élément de différenciation avec le coût, ça serait une autre approche qu'il faudrait adopter, à mon avis. Et ça, quand
donc
vous verrez
plutôt aller chercher d'autres classes moyennes dans d'autres villes du pays, sous-entendu.
Eh ben, à mon avis, déjà, qu'il consolide les communes où vous êtes présents, déjà. Aujourd'hui, j'ai vu dans le document que vous êtes à plus 30% de croissance. Absorbez déjà ces 30% de croissance et vous allez continuer de croître. Consolidez déjà l'existant, c'est-à-dire bâtissez bien votre modèle avec la question de renforcement des compétences de vos artisans. Imaginez à terme un espace où vous avez du matériel auquel ils peuvent avoir accès. Construisez d'abord bien le modèle. Et ensuite, vous pouvez vous étendre, à mon avis.
Kevin, est-ce que ces conseils sont bien clairs pour vous? Est-ce que ça vous aide à voir un peu plus loin dans le projet?
Bien sûr, ce sont des conseils que je trouve très pertinents et qui nous aideront à mieux affiner nos stratégies, je pense.
Ouais. Voilà. Et puis,
mieux aborder le marché.
Et puis, vous pourrez gagner aussi un peu d'argent lorsque vous allez associer tous les vendeurs de matériel de construction, ceux qui vendent des peintures.
Bien sûr, vous pouvez les
agréger à votre plateforme et ils deviennent des fournisseurs de premier niveau qui peuvent vous payer justement pour amortir votre... C'est peut-être ça qui vous permet de financer à terme votre centre de formation d'ailleurs.
Ok, merci.
Merci à vous Kevin, et puis on souhaite longue vie à mon artisan hein, qui va peut-être devenir un acteur incontournable quand on voudra faire construire sa maison ou réparer sa voiture. Oui, je sens que vous y croyez, hein, Didier à côté.
Ouais,
exactement. Bah, voyez, ça y est, vous en avez convaincu un déjà. C'est déjà une bonne étape.
Et
merci.
Peut-être le banquier qui nous entend.
Ouais, merci à vous.
Très très bonne journée à vous Kevin à Abidjan. Dans quelques instants, on sera en ligne avec Parfait Amundo. Ne serait-ce que pour l'accueillir avant le flash. L'Afrique regorge de talents. Ça, on le sait, il faut les mettre en valeur et
absolument,
il faut dépasser les galères. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone du Standard si vous écoutez cette émission, si vous êtes en train d'essayer de lancer une entreprise, de faire démarrer un projet, que c'est difficile, que vous souhaitez prendre du recul, discuter, dialoguer avec le coach, vous nous appelez tout de suite. 33 1 84 22 71 71. Bonjour Parfait.
Oui, bonjour.
Parfait, vous êtes à Moundou, la capitale économique du Tchad. Soyez le bienvenu.
Merci, merci à vous et merci au quotidien.
Oui, bonjour, Parfait.
Parfait, vous avez un parcours avec un... Alors, vous êtes bien diplômé, Parfait, parce que vous avez un master en management des entreprises et des organisations. C'est au 2IE, hein, à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, qui est à Ouagadougou. Mais vous avez suivi la formation à distance et vous avez un projet, alors qui est tout à fait dans l'air du temps, puisqu'on est en plein sommet climat. C'est de créer une ferme expérimentale à 15 km de Moundou avec de l'agriculture durable, biologique, une plateforme de mise en relation et de vente en ligne. Voilà, c'est vraiment dans l'air du temps. On est bien d'accord. Parfait, vous allez nous expliquer tout ça juste après le flash.
Je vous en prie, je suis là.
Merci, Parfait. On se retrouve dans 3 minutes avec bien sûr Didier à côté. Et quant à vous qui nous écoutez, vous pouvez continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Vous avez un projet, on en discute et surtout vous posez vos questions au coach Didier à côté.
Découvrez 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins. La parole est à ceux qui veulent entreprendre en Afrique. Et cette émission vous montre les innovations, la créativité du continent. Sans oublier évidemment les galères, sinon ça ne serait pas drôle. Sinon Didier Akwété n'aurait pas de conseils à vous donner, le coach.
Oui.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Il épluche vos business plans méticuleusement quand on les reçoit. Didier Akwété, on est en ligne avec Parfait, 30 ans, à Moundou, au Tchad. Rebonjour Parfait. Votre projet, c'est vraiment de créer une ferme expérimentale à 15 km de Moundou, avec de l'agriculture durable, biologique, et puis à terme aussi de la mise en relation, du conseil aux agriculteurs, de la vente en ligne. Enfin, il y a beaucoup de services autour de cette ferme expérimentale. Comment vous ressentez l'environnement tout d'un coup pour avoir souhaité monter un projet plus en phase avec l'environnement ?
Nous sommes à l'ère où l'environnement est vraiment crucial et personne ne peut ignorer l'impact, sinon l'apport négatif de l'agriculture sur l'environnement. Donc, l'idée de vraiment pouvoir faire de l'agriculture durable, c'est l'agriculture biologique qui puisse protéger et les sols, et les hommes, et l'environnement dans lequel nous vivons. Voilà vraiment ce que nous voyons avec ce projet dans l'ère où l'environnement est à la ligne.
Oui, ce que vous voyez, c'est que le réchauffement climatique chez vous, c'est déjà là, quoi, en gros.
Oui, oui, le réchauffement climatique, c'est déjà là au Tchad. Ça fait que déjà, les rendements sont de plus en plus médiocres. Et la température s'élève jusqu'à même 45 degrés à l'ombre dans cette zone du pays au Tchad. Mmh.
En quoi va consister exactement ce projet qui démarre à peine ? Pour l'instant, je crois que vous avez 25 hectares, plus à peu près 70 hectares qui appartiennent à des clients qui vous consultent essentiellement pour des conseils, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, le projet consiste vraiment à pouvoir apporter de l'accompagnement, de l'assistance et de conseils techniques et agroécologiques aux agriculteurs. Nous sommes partis du constat où le service de l'État actuellement mis en place ne peut pas couvrir vraiment tous les villages, sinon tous les agriculteurs. Voilà, nous, en tant que jeunes, nous avons dit il faut que nous apportions notre expertise, sinon notre apport en la matière. Voilà, donc nous avons créé ce projet. Déjà, il y a cela 3 ans, et nous essayons d'avancer. Et voilà, aujourd'hui, nous voulons mettre sous pied cette ferme expérimentale qui pourra nous permettre de faire des expérimentations, des essais, sinon des recherches pour pouvoir donc révolutionner l'agriculture au Tchad qui est aujourd'hui en train par rapport à d'autres agricultures dans la sous-région naturellement.
C'est ça, la ferme expérimentale, ça va vraiment être le lieu. Alors vous avez commencé à monter cette ferme avec 5 000 $ que vous avez reçu du prix Tony Elumelu 2017, hein, je crois, tout récemment. Il y a un jardin maraîcher pour une production végétale, il y a des volailles, il y a des bœufs, c'est ça ? Ouais, des ruminants. L'idée, c'est vraiment de pouvoir former les agriculteurs, parce que l'agriculture biologique, c'est quand même assez intellectuel. Il faut beaucoup réfléchir en réalité, hein, et on n'applique pas les pratiques comme on le fait pour l'agriculture conventionnelle. Enfin, si je dis ça, il y a certains agriculteurs qui vont nous assassiner, qui sont en agriculture conventionnelle. Mais bon, en général, c'est ce qu'on dit. Donc, cette formation n'est pas présente en ce moment au Tchad pour faire davantage d'agriculture durable.
Non, pas du tout. Cette formation n'existe pas. Et donc, voilà, nous sommes déjà en pied de pour pouvoir vraiment demander cette formation d'ici janvier. Dans notre ferme, comme nous venons de le dire, il y a des petits ruminants, il y a des volailles, et donc il y a aussi des déchets, des résidus agricoles. Donc toutes ces choses-là, nous allons pouvoir les recycler, les transformer, afin d'avoir de l'engrais naturel où nous puissions utiliser pour faire de la production végétale. Ouais. Et les résidus de production végétale pourront aussi nourrir nos animaux, sinon nos petits ruminants.
Alors ce que je ne comprends pas bien, moi, Parfait, c'est quel est exactement le modèle économique de cette ferme expérimentale ? Comment vous comptez vous rémunérer, vous et vos associés ?
Le modèle économique est simple. C'est-à-dire, nous allons vendre du conseil de l'assistance agroécologique aux agriculteurs. Nous allons aussi vendre la formation.
Mais les agriculteurs, ils ont les moyens de s'acheter du conseil, vraiment ?
Nous savons comment nous pouvons atteindre ce cible-là déjà. Nos conseils et assistance sont vraiment à bas prix, à la hauteur vraiment des agriculteurs. Mais il y a aussi des particuliers, des tierces personnes qui peuvent solliciter. Donc, nos facturations vont, par exemple, de 5 000 à plus. Vous voyez, ça dépend de la sollicitation et de quel type de sollicitation le client a besoin. Et j'aimerais déjà vous dire tout à l'heure que nous avons même déjà implanté une ferme pareille à M. Alex, ministre de l'Énergie du Tchad, qui a valu facilement 2 millions. Donc, ça dépend du type de sollicitation des clients.
Oui, bon, donc en fait, si vous avez dans votre carnet d'adresse tous les ex-ministres qui veulent s'implanter, se faire implanter un jardin potager...
Non.
Non, mais pour parler plus sérieusement, alors aujourd'hui, quelles sont les questions que vous voulez poser à Didier à côté?
La première question que nous voulons poser à Didier, c'est de savoir comment attirer vraiment des investisseurs vers notre projet et comment rendre ce projet plus compétitif. Parce que nous sommes à l'ère où il faut de la compétitivité pour faire face aux concurrents. Donc, comment rendre ce projet plus compétitif? Voilà la première question que nous avons à poser au coach Didier.
Alors déjà, qu'est-ce que vous en pensez?
Dans l'absolu, oui, parce que l'agriculture va se développer, l'agro-industrie va se développer, il faut nourrir l'Afrique, il faut nourrir la planète, et beaucoup de jeunes vont dans ce business, et c'est déjà très bien. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'agriculture est perçue différemment.
Et des jeunes bien formés, comme c'est le cas de Parfait, d'ailleurs.
Exact. Alors, ce que je vois, généralement, Parfait, ce que vous voulez faire, généralement, c'est des modèles publics, c'est-à-dire, c'est l'exemple de l'Éthiopie. Hein. Vous savez, vous vous souvenez, We Are the World, la grande famine d'Éthiopie dans les années 80, ils ont tourné la page parce qu'ils ont réussi justement à mettre en place, l'État notamment, mais géré de manière sérieuse, des plateformes de conseils, de services, d'appui aux paysans.
Ouais, c'est le cas aussi, ça a été le cas en Inde, hein, notamment, oui. Il y a fort longtemps.
Mais
et à très grande
Afrique,
échelle.
Exactement, ça fonctionne. Au Kenya aussi, ça semble fonctionner. Donc, vous êtes sur un modèle, à mon avis, qui est un modèle de partenariat public-privé. Tout seul, je crains que les agriculteurs, comme le disait Emmanuel, n'aient pas forcément les moyens d'acheter ce genre de service. Et vous avez besoin d'experts. Donc, même si vous le vendez peu cher, comment allez-vous rémunérer vos experts? En revanche, si dans le modèle économique vous dites « nous allons vivre de la vente des produits des paysans », comme par exemple, vous en avez parlé à un moment donné dans le business plan de mettre en place des espèces de marchés en fait, d'offres et de demandes, et là vous prélevez une partie de ce qui est vendu sur le marché, donc vous créez une sorte de bourse de valeur de produits agricoles, et vous vous rémunérez sur ça, et ça vous permet de financier, entre guillemets,
la partie plus sociale.
La partie, c'est ça. Je pense que vous aurez un peu moins de mal. Mais un modèle purement payant, sur ça, j'en ai pas beaucoup vu. Ou alors, il faut vraiment faire beaucoup de volume. Il faut faire énormément de volume. Et je ne sais pas si votre équipe est capable d'absorber un volume si le prix d'accès est très faible. Donc, ça serait ma première observation. En termes de concurrence, alors je suppose que quand vous parlez compétitivité, c'est moins sur le volet conseil que sur la ferme expérimentale, c'est ça? Sur les produits?
Parfait.
Dans le volet de prestations, de services, c'est ça?
De services, pas de la ferme?
Non, pas de la ferme, pas de la ferme.
Alors vous voyez ça, je retourne à ma première observation. Pour être compétitif, vous avez l'obligation d'arriver à vendre le produit pas très cher, donc a priori être subventionné. Deuxièmement, la proximité. Ça, c'est important parce que, vous savez, le fermier, enfin, vous le savez bien puisque vous avez lancé une ferme expérimentale, le fermier veut du concret. Vous voyez, quand vous dites plantez votre semence de cette manière, les engrais que vous utilisez ou le type de récolte que vous faites, c'est comme ça que vous devez faire. Ils ont besoin quand même de choses assez pratiques, quoi, et pas simplement de SMS avec une réponse ou quelqu'un qui appelle au téléphone. Et là, à mon avis, la forte valeur ajoutée va résider dans votre capacité à mailler, à l'échelle soit de la région ou du territoire, un réseau d'experts ou d'ONG qui sont déjà présentes sur le terrain, qui peuvent apporter cette dimension pratique au paysan lorsqu'il a besoin de conseils. Et vous, votre plateforme, entre guillemets, technologique, vient simplement en appui pour des petits conseils.
Où est-ce que vous en êtes parfait dans vos relations, dans votre approche avec aussi bien les ONG que les pouvoirs publics sur un projet de ce type?
La relation, vraiment, c'est pas facile. Nous avons essayé à mettre plus de rencontres, ne serait-ce que le ministère de l'Agriculture, mais ça n'a pas eu lieu. Donc les relations ne sont pas très, très bonnes pour le moment.
Dans votre projet, dans l'idée, c'est d'avoir ensuite une sorte de place de marché où ce que les paysans produisent, vous arrivez à les leur écouler. J'ai vu même que dans l'application, vous pourrez donner les prix, quel est aujourd'hui le cours de telle denrée, s'il veut vendre, il vend, s'il ne veut pas vendre. C'est aussi un peu ça, à terme d'idée, quand même, de monétiser la production.
Oui.
Bon, très bien. Donc, à ce moment, je vous invite à regarder l'exemple de l'Éthiopie, qui est devenu un success model, hein, au niveau agricole et de place de marché, d'assistance aux paysans, avec des structures publiques qui sont en partenariat avec des privés, qui semblent bien fonctionner. Mais tout seul, sur un modèle purement marchand, je pense que vous aurez un peu de mal.
Pour l'instant, vous êtes combien sur votre projet, Parfait?
8 pour le moment.
Très
donc
bien.
Deux cofondateurs.
Ah oui. Très bien, merci beaucoup. Parfait.
Mais c'est une bonne idée. Ça reste une bonne idée parce qu'il faut donner de l'assistance technique aux paysans.
Il y avait aussi une question merci. Sur comment convaincre les opérateurs de téléphonie mobile de nous faire de la pub par SMS. Mais encore faut-il que derrière, tout soit bétonné sur le plan des services que vous allez fournir, hein, Didier Acoté.
Oui, disons, un opérateur n'aura pas de contraintes dans l'absolu, quoi, à être en partenariat avec vous si vous apportez les réponses qu'il faut. En revanche, du coup, ça donne une autre idée, c'est de les prendre comme partenaires, puisque dans le cadre de la RSE de certains de ces opérateurs,
responsabilité sociale des entreprises,
un opérateur peut tout à fait trouver un intérêt à financer une petite plateforme de conseil aux paysans et offrir sa plateforme justement comme moyen de faire passer l'information avec vous, un petit subside que vous prenez au passage sur chaque communication ou chaque conseil demandé.
Parfait, ça va s'appeler Entrag, hein, c'est bien ça, cette ferme expérimentale ouais. Avec la plateforme de mise en relation et de vente en ligne.
Justement, Entrag parle, hein, Entrag, une société à responsabilité limitée.
Merci et bonne chance, parfait. Merci de nous avoir appelés.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Très bonne journée à Moundou. Vous continuez de nous appeler les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. On accueille dans quelques instants un voisin qui est en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avec un projet qui touche surtout la santé.
Oh
tourner le monde, donc tourner la tête. Ah. J'ai boosté ma zik, elle est balèze, maintenant elle raquette. Yes. Je contrôle plus la jeunesse, pense qu'à se péter la tête. Je fais des clips un peu fly, tout le monde dit que je me la pète. And easy hits maker, j'avoue, je fais mal à la tête. J'ai l'impression du sniper, chaque rime une balle à la tête. Bah. Petit a fait vibrer, mon talent, j'étais busy. Je vais finir par décrocher, puis faire vibrer son physique. Tu connais le football, tu connais Lionel Messi. Si tu connais le peura, bah tu connais N Easy. C'est aussi simple que ça, même les imbéciles ont saisi. T'as quoi mémoriser mon son et mon number aussi. En fait, on n'est pas docile, libertin et grossier. Mon art est pire qu'un fossile, gardé par les anciens. Si un jour t'es en chien, galère ta meuf est enceinte. Fais comme les boys de chez moi, vole le politicien.
Boy, on est toujours au okay. Tu vas croire qu'on est bloqué. Les gros sont toujours au okay.
Fabien, 30 ans, est à Abidjan et il nous appelle pour avoir des conseils et dialoguer avec le coach. Bonjour Stéphane Fabien.
Bonjour.
Stéphane Fabien, vous avez un projet qui s'appelle Santé Plus Côte d'Ivoire. Alors, ça n'a pas encore démarré, hein, contrairement à d'autres jeunes qui nous appellent, qui ont déjà lancé leur entreprise. Il va s'agir d'un site web, d'une application, d'un service de messagerie pour informer sur des gestes de secours et d'urgence. Vous êtes parti d'une étude de terrain à Abidjan et en gros, vous dites les habitants sont très mal informés sur leur santé. Ça veut dire qu'ils n'écoutent pas Priorité Santé sur RFI. Déjà. Donc, quel est exactement le problème auquel vous êtes confronté? Comment va marcher surtout ce site Santé Plus Côte d'Ivoire?
Au niveau de Santé Plus Côte d'Ivoire, pour celui qui devrait utiliser le site web ou bien l'application, il devrait mettre son nom et son prénom, ensuite son groupe sanguin, son lieu d'habitation, oui. Son adresse électronique et ensuite son mot de passe.
Oui.
Du coup, il a accès au site web, il a aussi accès à l'application.
Et donc, qu'est-ce que vous fournissez exactement comme service une fois qu'on a rentré ses coordonnées et qu'on a son compte sur votre site?
On a la possibilité de pouvoir consulter les pharmacies de garde au niveau de la Côte d'Ivoire.
Ouais.
Également, si on a la possibilité de pouvoir consulter les annuaires des campagnes de vaccination au niveau du ministère de la Santé de Côte d'Ivoire.
Ouais.
Et pouvoir faire le sport à la maison aussi sans se déplacer.
Oui.
Également aussi, nous avons des informations relatives au ministère de la Santé, au niveau de l'OMS, et également aussi au niveau des ONG qui militent en faveur de la santé.
C'est ça, vous relayez toutes ces informations-là. Donc c'est vraiment une application un peu de, plutôt de santé globale, je dirais, finalement. Hein.
Oui, c'est bien ça.
Pas spécialisé sur les gestes de secours et d'urgence. Hein.
Parce que c'est
comme ça que vous avez tendance à décrire votre site Santé Plus Côte d'Ivoire, mais c'est plus large.
Oui.
Quelles sont les questions que vous souhaitez poser à Didier ?
Au niveau de la ressource humaine, nous sommes confrontés à des difficultés, à savoir, on a une équipe qui n'a pas d'expérience dans la gestion de ce type de projet. Du coup, ça crée un frein au niveau de l'avancement même du projet.
Ouais.
Donc, ma question est de savoir quelle est la meilleure façon de pouvoir gérer l'effectif au niveau du projet. Et également, c'est comment embaucher, si on est confronté à pouvoir embaucher dans le cadre de notre projet.
Mais pour embaucher, il faut gagner de l'argent déjà.
Effectivement.
Mais comment vous allez en gagner avec ce site ?
Il faut recruter les bonnes personnes, en fait.
J'ai pas compris. Comment vous allez gagner de l'argent avec Santé Plus Côte d'Ivoire, Stéphane Fabien ?
Par la publicité également. Ouais. Aussi par la souscription, par messagerie.
Oui, mais la publicité voilà. Sur les sites internet, vous savez, ça ne rapporte pas grand-chose. Hein. Il faut vraiment avoir énormément de trafic hein, pour pouvoir valoriser sa page de pub.
Également, aussi, on peut gagner de l'argent aussi par la souscription messagerie.
Ah donc, d'accord, donc un système d'abonnement, c'est ça ?
Et par jour.
D'accord.
Oui, voilà.
Ouais.
Donc les gens pouvaient choisir l'abonnement par mois, par semaine ou même par jour, pour pouvoir bénéficier des informations de santé via son téléphone.
Ouais. Didier Akwété, je vous sens dubitatif. En même temps, c'est vrai qu'il y a un nouveau marché, un nouveau boulevard qui s'offre dans ces pays africains où il y a une prise de conscience que la santé est un bien qu'il faut cultiver, où les gens sont de plus en plus intéressés par les questions de santé et se rendent compte individuellement qu'ils ne sont pas toujours bien informés. Donc il manque des produits de ce type. Il y a déjà des choses hein, sur Internet, beaucoup de choses. Comment vous ressentez le projet de Stéphane Fabien ?
En fait, il y a des besoins en matière de santé. Et d'abord, le fait d'avoir positionné son projet comme une plateforme d'accès aux premiers secours, aux premiers soins, c'est pas ça. On comprend que c'est une plateforme plutôt générique de santé avec accès à un certain nombre d'informations. Vous êtes une start-up et la première question, c'était ressources humaines. Alors, j'ai tendance à vous dire, pour faire de la santé, il vaut mieux des experts qui savent ce dont ils parlent. Ça, c'est la première chose au niveau de l'expertise. Après, au niveau de votre projet à vous-même, votre équipe qui est censée promouvoir le projet, effectivement, il vaut mieux que soit ils soient bons commerciaux ou bons marketeurs, sans forcément être des experts en santé. En revanche, je crois que là où vous gagneriez sans avoir des moyens, mais en crédibilisant votre plateforme, c'est très rapidement de vous associer avec, par exemple, l'association des médecins, en tout cas des professionnels de la santé, dans chacun des domaines que vous avez imaginés pour la plateforme, en dehors de l'accès à l'information primaire de base. Pharmacie de garde, ça, c'est pas compliqué. Les cliniques qui sont dans telle commune, ça, c'est vraiment de l'information qui n'est pas sujette à diagnostic. Donc, il faut vraiment différencier la partie information simple, disponibilité de l'information, et puis la partie que je vais appeler accès à l'expertise, qui est un sujet beaucoup plus sérieux lorsqu'on parle de santé. Et c'est sur ce deuxième volet-là.
Il y a d'ailleurs un concurrent qui s'appelle Docteur à domicile ou quelque chose comme ça, non ?
Oui, c'est bien ça.
Ils vont en avoir de plus en plus de toute façon. Mais en gros, ce que je comprends, c'est que vous virtualisez l'accès à la santé à travers des experts. C'est-à-dire que même avant que le médecin ne vienne à domicile, sur votre plateforme avec le numéro de téléphone que vous avez, le fait d'appeler, de parler à un médecin pour un geste de premier secours, exemple, mon fils a avalé de l'acide, qu'est-ce que je fais ? Ou il vient de se prendre un clou dans la jambe, il saigne à tout va, qu'est-ce que je fais ? Déjà, si vous avez des médecins référents qui sont partenaires de la plateforme, qui peuvent donner cette première information sur un numéro payant, déjà, je comprends un peu mieux votre modèle.
Ouais.
Donc, c'est vraiment distinguer
la partie expertise. Pour l'instant, vous ne vous êtes pas rapproché de médecins. Vous êtes avec plutôt des informaticiens, des responsables techniques, des responsables communication, hein, si j'ai bien compris, Stéphane Fabien.
On a déjà deux médecins et des ressources qui travaillent avec nous depuis le début du...
D'accord.
Il faut élargir votre réseau d'experts pour crédibiliser la plateforme. Parce que vous voulez faire une sorte de one-stop-shop pour la santé et le bien-être. Donc, en dehors de référencer l'information, la partie expertise, vous avez vraiment besoin de bien vous entourer pour que les personnes qui appellent ou qui vont sur le site internet puisse être en confiance et renouveler l'expérience. Sinon, ça ne marchera jamais.
Ok, c'est entendu.
Et peut-être pour la question de coût, si vous arrivez à négocier avec ces experts leur disant c'est payé en fait grosso modo à l'acte, et s'ils acceptent, vous n'aurez pas à débourser en amont. Mmh. C'est-à-dire lorsque vous interviennent sur un cas, c'est là où vous les payez, enfin où lorsqu'ils sont payés, vous touchez quelque chose.
Avec une commission.
Un peu comme le camarade du début.
Vous vous interrogez sur le lieu d'implantation. Est-ce que c'est la bonne idée de s'implanter à Abidjan ou plutôt ailleurs? C'est ça, hein, Stéphane Fabien?
Oui, oui. Toutes les activités qui sont concentrées au niveau d'Abidjan. Mmh. Toutes les entreprises qui se créent se localisent à Abidjan. Et nous, on a voulu commencer juste à l'intérieur du pays et puis après de pouvoir étendre aussi nos réseaux au niveau de toutes les villes de la Côte d'Ivoire.
Donc vous allez commencer à Yamoussoukro, c'est ça?
Oui, 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 oui. Ouais. Effectivement.
Ouais. Pourquoi pas dans l'absolu? Après, si vous me dites, dans votre étude, voici la population cible à laquelle mon produit va s'adresser, voici les distances qui justifient que lorsque quelqu'un a un problème à Yamoussoukro, il faut qu'il utilise la plateforme en ligne ou un numéro de téléphone pour avoir accès au service, donc ça le justifie. Mais s'il y a une telle proximité qu'il n'a pas besoin forcément d'utiliser cela, ça aura peut-être une portée limitée. Donc dans votre étude, assurez-vous effectivement que votre zone, entre guillemets, de chalon, enfin, je ne vais pas dire si ça fait un peu marchand, en tout cas que votre zone d'action...
Dans une forme de privatisation du Conseil Santé.
Que votre zone d'action vous permet d'avoir des clients qui ont besoin d'accéder à ces services parce que c'est trop distant pour eux pour y aller. Il y a pas assez de pharmacies pour qu'on sache laquelle est de garde, etc. Donc, c'est des éléments qu'il faut bien intégrer dans votre étude.
Bon, en tout cas, vous avez le marché pour vous, Stéphane, parce qu'il y a, c'est vrai, de plus en plus de concurrents, mais aussi de plus en plus de besoins dans le domaine de la santé, notamment dans le secteur privé.
Oui, santé, éducation, c'est les deux gros domaines qui se développent
très vite. À défaut que le service public progresse. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir appelé et bonne chance à vous.
Merci bien. Merci.
Vous nous tenez au courant de l'avancement de votre projet. Didier, à côté, on a de plus en plus de projets autour de la santé maintenant. Alors beaucoup de start-up aussi qui utilisent les nouvelles technologies. Vous souhaitiez donner un dernier conseil en général autour de la façon de concevoir son business plan. Vous dites souvent le positionnement, le positionnement, le positionnement. Vous trouvez que les projets sont mal positionnés?
C'était un peu ce qu'on a vu à Saint-Louis. Ils avaient de très bonnes idées, de très beaux projets, mais finalement, on ne sait pas à qui le produit s'adresse. Quand on parle de positionnement, c'est de bien choisir la cible. C'est-à-dire, quelle est la position de votre produit sur le marché? À qui je m'adresse? Pour quel produit? Et tout est décliné autour. Le prix, tout ça est décliné autour du positionnement. Donc, c'est vraiment être extrêmement vigilant sur la cible qu'on choisit.
Alors, quand on dit cible, c'est plus précis que classe moyenne.
Classe moyenne, c'est trop vague. Par exemple, lorsque notre ami Stéphane nous dit « je veux aller à Yamoussoukro », d'accord, je veux bien lancer ma plateforme à Yamoussoukro, mais c'est pour qui? C'est pour une classe moyenne qui se trouve à Yamoussoukro, mais cette classe moyenne, il faut qu'elle soit dans quelle tranche de revenus par an? Il faut qu'elle habite où à Yamoussoukro? Donc par rapport à cette classe
avec
moyenne...
Avec quelles habitudes de vie?
Voilà, selon la zone où elle habite, la manière dont je l'ai quantifiée, la manière dont je définis leur classe de revenus, combien ils sont et du coup, combien de médecins j'ai à la ronde pour servir cette classe moyenne, combien de pharmacies. Donc finalement, peut-être qu'il se rendra compte que son projet n'est peut-être pas viable ou qu'il est viable, mais à condition que ce soit dans une agglomération beaucoup plus importante, etc. Notre ami paysan du Tchad, c'est pareil. L'agriculture, c'est très vaste. Une plateforme de service aux paysans, c'est très vaste. Quel type de paysan? Quel type de service? Donc, quand je parle de positionnement, c'est extrêmement important de bien définir à qui le produit s'adresse. Et c'est seulement là que vous pouvez construire un modèle économique parce que vous commencez à avoir une taille de marché. Si c'est pour 200 personnes, mais que vous voulez vendre un produit pas cher, vous n'allez pas survivre. Par contre, si vous dites, attention, mes clients, c'est 1 million de personnes, donc je peux faire une stratégie de prix parce que mon positionnement, c'est ce type de clientèle qui est localisée, etc. Donc, très
important. Donc, il faut faire des études de marché, embaucher des étudiants d'école de commerce et mener des études avant de lancer son projet.
Idéalement, évidemment, on peut aller au PIF, ce qu'on appelle l'étude pifométrique. Bon, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de mon produit, j'y vais, certes. Mais c'est quand même mieux si on arrive à la quantifier, à l'identifier, à analyser son besoin. Parce que c'est ça, il y a tellement, on dit, bon, la santé, l'éducation, super. Mais enfin, il faut affiner. Donc le positionnement et l'étude de marché, c'est deux éléments qui permettent de bien construire son modèle économique.
J'espère que le message est bien passé. Le mois prochain, on vous présente des projets, je suis sûre, de jeunes qui auront super bien positionné leur projet. Vous revenez le mois prochain, hein,
Ils
Didier.
Ont intérêt, sinon ça va saigner.
Vous ne les lâchez pas, donc. Merci à vous Didier Acouetté, merci à toute l'équipe aussi, Cécile Lavolo, Sophia Bédard qui a préparé les projets des jeunes, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr nous retrouver sur Facebook, sur Twitter et maintenant sur Instagram, il y aura des photos en exclusivité de Didier Acouetté.
C'est moderne.
Et demain, 7 milliards de voisins, dis-moi à quoi ressemble ta maison, je te dirai qui tu es.
Et combien tu gagnes.
Voilà, alors là, ça ne sera pas une histoire de plombier. Un psy et un agent immobilier publient un livre sur la révolution des intérieurs et sur ce qu'ils disent de nous, de notre intimité. Donc pour les maniaques du rangement ou les amateurs du foutoir, ne manquez pas l'émission. Vous êtes dans quelle catégorie, Didier ?
Le maniaque du rangement.
Ah oui, d'accord. J'avais bien imaginé ça. Ne manquez pas l'émission, donc demain, 10h10. Et bien sûr, les voisins, vous nous appelez pour nous décrire l'habitation où vous sentez vraiment bien. L'habitation idéale où vous vous sentez heureux. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous soyez bien dans votre intérieur ? 33 1 84 22 71 71. Non, pas seulement une jolie fille, bien évidemment. Allez, vous nous écrivez également à 7milliards@rfi.fr. Et pour tous les JPAG, les jeunes patrons de l'Afrique qui gagne. Vous nous envoyez vos projets tout au long de la semaine. C'est Sophia Bédard qui les reçoit, qui dialogue avec vous. 7milliards@rfi.fr.